Général, je lui cède la parole.
Merci, Madame Jouquet, pour l'invitation. Donc, je vais. Et puis, voilà, je vais tenir un petit peu en 1 heure pour faire une intervention, au fond, qui ne va pas trop approfondir un certain nombre de points, mais simplement, ce que j'ai proposé suite à votre invitation, c'est de réfléchir à la possibilité qu'a le lycée professionnel de contribuer à la démocratisation scolaire. Et ça interroge aussi sur, en fait, c'est une proposition que je fais parce que, effectivement, comme vous le disiez, quand j'ai commencé à travailler sur la voie professionnelle, je me suis aperçu, premièrement, qu'il y avait peu de travaux. Et donc, effectivement, quand on fait des recherches, on a quand même toujours besoin d'aller voir un peu ce qu'on appelle l'état de l'art. Et je me suis aussi aperçu que les travaux qui existent, sont souvent centrés sur les phénomènes de reproduction sociale. Parce qu'on part effectivement, ils partent tous du constat que j'ai pu faire aussi, que les élèves qui sont dans la voie professionnelle sont majoritairement issus de milieux modestes. Donc ça m'a amené aussi à me dire, au fond, est-ce qu'il n'y a pas un défi à relever? Et très vite, je me suis aperçu, par exemple, que des élèves qui sont tous majoritairement issus de milieux modestes n'ont pas tous le même rapport au savoir. Et cela dépend aussi de plusieurs facteurs que je vais évoquer. Et donc, ça m'a amené à dire aussi que l'hypothèse, c'est de dire que le lycée professionnel contribue aussi à la démocratisation scolaire, à condition de savoir ce qu'on entend par démocratisation, et puis à condition aussi de savoir, de donner peut-être une plus grande place à l'expérience des élèves et des enseignants. Et donc, avant de développer ce point, simplement dire qu'au départ, quand j'ai commencé à travailler sur les élèves de lycée professionnel, c'était pour essayer de comprendre quel rapport ils ont avec la formation et les études quand une majorité d'entre eux disaient, en gros, on n'a pas choisi notre orientation. Et progressivement, je me suis aperçu que ce qui était important, ce n'était pas seulement le choix d'orientation, c'était aussi comment ils étaient accueillis, comment ils étaient accompagnés. D'où, dans un deuxième temps, la question de travailler sur les pratiques pédagogiques des enseignants. Donc, en fait, je suis parti des élèves pour interroger les pratiques des enseignants et c'est en mettant en perspective ces deux dimensions que j'ai développé un peu ce que j'ai appelé une sociologie du lycée professionnel. Donc, dans un premier temps, quelques développements simplement, il y a quelque chose de très curieux quand on s'interroge sur le lycée professionnel parce que il est à la fois méconnu. En gros, on n'en parle pas beaucoup, en fait. Ou alors, quand on en parle, c'est souvent pour dire les problèmes, hein, et rarement pour dire les réussites, par exemple. Et en même temps, ils scolarisent quand même le tiers des élèves du lycée, hein. Donc, c'est un élève sur trois. Je dois aussi dire de suite que c'est aussi le lycée professionnel scolarise plus d'élèves aujourd'hui que les filières technologiques, hein. Donc, en fait, on a trois bacheliers sur 10 sont issus du lycée professionnel, quand deux bacheliers sur 10. À peine 2 bacheliers sur 10 sont issus de l'enseignement technologique. Donc, il y a quelque chose de très curieux d'à la fois le rendre un lycée un peu invisible et en même temps un lycée qui scolarise quand même un public important. Et quand on fait un peu l'histoire de cet enseignement, cet ordre de formation, nous avons besoin de faire un historique parce que ça permet aussi de voir que le lycée, il a finalement toujours eu une certaine lycée professionnel, une certaine tension entre l'insertion professionnelle, hein, c'est quand même sa mission historique, former des élèves, des futurs ouvriers employés essentiellement, et puis la poursuite d'études. Et je dois dire que la création du baccalauréat professionnel en 85 a redoré l'image de la voie professionnelle, il faut quand même le dire, souligner, et puis le fait qu'il ait basculé en 3 ans, en 2007, et généralisé en 2009, ça a eu un effet non négligeable sur le rapport des élèves à la formation. C'est un point important sur lequel j'insiste parce que, au-delà de toute querelle idéologique, je dois se dire que quand on interroge les élèves et quand on voit un peu leur rapport à la formation, par exemple, il y a quelque chose qu'on peut remarquer aujourd'hui. Ils arrivent d'ailleurs très jeunes en lycée professionnel par rapport aux anciennes générations et systématiquement, ils sont plus nombreux à vouloir poursuivre des études. Donc, ça veut dire que ça interroge aussi sur les missions du lycée professionnel, est-ce que c'est la préparation à l'emploi ou est-ce que c'est la poursuite d'études qui est quand même un sujet important aujourd'hui. Donc peut-être dans un premier temps, je vais aller un petit peu rapidement, mais un peu ce que j'ai appelé une ère révolue, l'élite ouvrière et sa formation. Alors je le propose d'autant plus que vous donner un exemple très concret. Quand les médias évoquent le lycée professionnel, l'image dominante reste l'image des lycées industriels. Souvent, c'est l'image du bleu de travail, c'est des élèves sur machine. Si vous voulez, c'est à peu près des images d'Épinal. Et en fait, c'est quelque chose de très ancré. Hein. Ce qu'il faut simplement dire, c'est qu'en réalité, il y a plus d'élèves dans les filières de services, les filières tertiaires, que des filières industrielles. Bon, ça, c'est la première chose. Le deuxième élément, c'est que l'image du lycée comme étant celui qui forme les futurs ouvriers, elle a un peu vécu globalement. Enfin, je veux dire, ça renvoie à des réalités beaucoup plus complexes, puisque nous avons beaucoup d'élèves qui sont, comme je viens de dire, dans les filières de service. Et on sait aussi que au niveau de la population active, vous avez aujourd'hui en France 2 fois plus d'employés que d'ouvriers. Donc, en fait, il y a quelque chose à mettre en parallèle avec cette histoire. La première chose qui apparaît quand on fait l'historique, c'est que le lycée professionnel a bénéficié d'une. Enfin, non pas le lycée professionnel, mais je dirais la formation des futurs ouvriers historiquement a bénéficié d'une image très positive. C'est-à-dire qu'on peut finalement la mettre en perspective avec aujourd'hui, ce statut un peu dévalorisé, j'y reviendrai tout à l'heure, avec finalement cohabite avec une représentation historique qui a placé la voie professionnelle comme étant une voie de réussite. Hein. Alors pour s'en apercevoir, je peux prendre l'exemple de l'apprentissage qui aujourd'hui conserve encore une image plus valorisée que le lycée professionnel, parce qu'il n'est pas identifié à l'école en fait. Et on retrouve quelque chose de très ancien, comme une sorte de prolongement de ce qui se passait à l'origine quand la formation professionnelle des futurs ouvriers était essentiellement une formation faite par les milieux professionnels ou par les maîtres d'apprentissage. Donc c'est une image qui a vraiment enchanté un peu cette historique de la voie professionnelle. Alors, on peut effectivement dire que, voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a finalement près de 6 bacheliers professionnels sur 10 sont diplômés du secteur des spécialités de service. Alors, on les retrouve d'ailleurs dans certaines formations très dominantes. Hein. Par exemple, tous les domaines des échanges gestion, c'est-à-dire aussi bien ce qu'on appelait avant la gestion administration, qui est aujourd'hui regroupée dans d'autres familles de métiers, les services aux personnes qui concentrent quand même un gros contingent des élèves. Et puis, les spécialités de production, elles aussi, concentrent un type de public. Hein. Si vous prenez l'électrotechnique, si vous prenez la mécanique, l'électronique, là, on a effectivement beaucoup d'élèves qui sont plutôt scolarisés dans ces formations-là. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que les filières professionnelles, les filières de lycée professionnel sont très genrées. Elles restent très genrées. Vous avez souvent une grande concentration de garçons dans des formations. Grande concentration de filles dans d'autres. Il y a parfois d'ailleurs des formations où vous n'avez aucune fille et d'autres où vous n'avez aucun garçon. Hein. Donc en fait, ça veut dire aussi qu'on retrouve à l'échelle de l'enseignement professionnel les divisions de genre qu'on repère aussi socialement. Hein. Donc ça veut dire aussi, et ça c'est un point qu'il faut aussi souligner, ça veut dire aussi que les inégalités de genre en matière de parcours, en matière d'insertion, on retrouve un peu une sorte de photographie dans les lycées professionnels. Alors, si on prend aussi les effectifs, j'ai mis ici quelques données simplement plus récentes sur notamment le secteur de la production qui représente 43,3% des effectifs. Alors, vous avez presque 57% dans les filières de services. Ça n'est pas sans conséquence aussi sur le rapport des élèves aux études. Hein. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a frappé dans les différentes enquêtes que j'ai menées, alors à différents moments, hein, j'ai mené des enquêtes à la fois pour une thèse il y a longtemps et puis des recherches un peu plus juste après, notamment sur les pratiques pédagogiques des enseignants. Ce qui était assez frappant, c'est de remarquer, de constater que les élèves qui sont scolarisés dans les filières de service, et même parfois dans les filières industrielles, ont de vraies difficultés à identifier les champs professionnels dans lesquels ils vont exercer. Ce qui, quand même, est un peu surprenant. C'est-à-dire que les métiers ne parlent plus aujourd'hui aux élèves comme les métiers d'avant. Hein. Par exemple, si vous parlez des métiers de l'informatique ou électronique, l'élève a du mal à identifier le champ professionnel, le type d'entreprise. Alors qu'avant, quand on disait les opérateurs régleurs sur machine, ils avaient des représentations très claires du type d'usine, d'entreprise dans lequel ils vont travailler. L'invisibilité des métiers est un vrai sujet. Et du coup, ça peut aussi participer parfois d'une des raisons qui amène aussi des élèves, et j'en dirai un mot, à vouloir poursuivre des études par la suite, à l'issue de leur diplôme. Et donc, passer à la sa suivante. Donc, simplement, quelques informations aussi pour préciser aussi les configurations des publics, hein, des choses que l'on sait par ailleurs, mais qu'il faut aussi réaliser aujourd'hui. J'ai parlé de pratiquement 700 000 élèves, on est plutôt à 645 000 aujourd'hui, si on prend des chiffres un peu plus actualisés, qui sont dans la voie professionnelle. Il ne faut pas oublier aussi que le lycée professionnel tend à avoir ses publics polarisés, hein, ce que j'ai appelé une polarisation des publics, c'est-à-dire que vous avez un bac professionnel qui est plutôt la vitrine du lycée, hein, en général, et le public des CAP qui est aussi un autre type public. Hein. Et les CAP aujourd'hui, alors CAP, comme vous le savez, c'est quand même le premier diplôme qui a été créé dans l'institution. Il a aussi vécu un âge d'or, puisque c'est le premier diplôme professionnel qui a été créé en 1919 pour effectivement reconnaître le savoir-faire ouvrier. Et ce CAP a eu, il a connu des évolutions extrêmement variables. Et si on veut se situer par rapport à aujourd'hui, vous avez en gros des CAP qui sont très sélectifs et vous en avez d'autres qui le sont beaucoup moins. Et ça aussi, ça veut dire en gros que le lycée professionnel connaît aussi une hiérarchie des formations dont il faut aussi prendre acte. Donc en fait, nous avons, comme vous le savez, un système éducatif, système scolaire qui est fortement hiérarchisé. Et il y a des mini-hiérarchies qu'on retrouve au lycée professionnel. Par exemple, si vous prenez la composition sociologique des élèves de la voie professionnelle, vous n'avez pas exactement les mêmes origines sociales en CAP esthétique coiffure que si vous prenez CAP dans des emplois au niveau des employés techniques, dans les milieux des collectivités. Vous avez donc un élément aussi qui vient différencier les publics. Autre problématique aussi, mais je n'en parlerai pas parce que c'est un peu un problème. Problématique récente et qu'il faudra aussi étudier, c'est que le lycée professionnel accueille aussi, dans le cadre de l'école inclusive, de plus en plus d'élèves à besoins éducatifs particuliers. Hein. Ce qui veut dire, par exemple, si je prends un CAP, on a des CAP dans lesquels on a parfois jusqu'à une division entière d'élèves notifiés par la MDPH. Hein. Ça veut dire que les épreuves professionnelles des enseignants se renforce hein, de l'arrivée de ces publics. Et moi, je considère que l'inclusion, c'est aussi ce que j'appelle un cas particulier de la massification un peu récente, hein, puisque c'est des nouveaux publics donc, qui interrogent les pratiques pédagogiques et la formation. On a quand même 72 900 PLP, et dont certains, comme vous le savez, n'exercent pas qu'en lycée professionnel, puisqu'ils exercent aussi dans les SECPA, en lycée, en collège, par exemple. Hein. Donc, c'est une manière de dire. C'est quand même un contingent important des enseignants, mais il est un peu réparti dans le plus gros, évidemment, et dans les lycées professionnels. Ce qui m'amène donc à un deuxième point, qui j'ai appelé l'intégration et dévalorisation de l'enseignement professionnel au sein de l'éducation nationale. Alors, je propose simplement de dire la chose suivante en préambule. C'est vrai que depuis que je travaille sur le lycée professionnel, j'ai travaillé aussi sur d'autres types de publics, hein, notamment les étudiants, sur d'autres champs d'études. Mais quand même, lycée professionnel, systématiquement, il y a une phrase qui revient, enfin une expression qui est de dire il faut valoriser la voie professionnelle. Hein. Donc ça suppose, si vous voulez, qu'il y a une dévalorisation d'emblée. Hein. Ce qui quand même m'amène à poser la question première, qui est de savoir qu'est-ce que c'est que valoriser? Donc valoriser la voie professionnelle, ça veut dire que il y a des représentations politiques, idéologiques de ce que c'est que la réussite scolaire. Au fond, on peut aussi réussir de différentes manières. Moi, je n'ai pas de définition de la réussite. Il n'y a pas un seul type de réussite. Mais vous voyez, derrière la notion de valorisation, ça suppose que les élèves qui vont vers la voie professionnelle, ils peuvent, bien sûr, ils réussissent, mais ce n'est peut-être pas forcément la même réussite qu'ailleurs. Donc, il faut qu'on s'interroge aussi sur ces préjugés. Hein. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, et ça aussi, ça permet de réinterroger la notion de démocratisation scolaire, c'est qu'il m'a paru clairement que il faut toujours faire une différence entre la manière dont l'institution, dont l'opinion, si on veut aller plus loin, définit les ordres de formation et la façon dont les publics les vivent, ces ordres de formation. Hein. C'est-à-dire que l'expérience des élèves n'est pas exactement la même que ce que nous en savons. Et donc, il faut bien aller interroger ce que les élèves vivent pour y compris réinterroger nos propres a priori. Hein. Par exemple, je ne suis pas du tout, comment dire, si, je trouve que c'est très bien les tests de la reproduction, mais je ne suis pas du tout un fan absolu parce que les tests de la reproduction sociale, elles considèrent que l'enseignement professionnel, c'est une voie de domination et de reproduction. Or, on ne peut pas parler de domination, l'hypothèse d'une domination absolue est discutable parce que ça suppose que les élèves ne peuvent pas résister. Donc, en fait, la notion de domination est très discutable sociologiquement et elle ne nous dit rien de toute façon sur la variété des expériences des élèves comme la variété des expériences des PLP. Je vais y revenir, parce que comme j'ai en face aussi des enseignants des PLP, dire aussi un peu ce que l'analyse que j'en fais au-delà des discours dominants par rapport à la hiérarchie, par exemple, des corps professionnels, bon, qui renvoie aussi à une hiérarchie institutionnelle bien intériorisée. Et qui peut aussi fonctionner. Donc, c'est un point qui me paraissait important à dire avant ce développement. Alors, rapidement, pour développer un peu ce point, d'abord, souligner que l'enseignement professionnel a joué vraiment un rôle de mobilité sociale. Il a été vraiment valorisé historiquement. Par exemple, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il a garanti. Pendant cette période dite des Trente Glorieuses, pendant plusieurs années, plusieurs décennies, il a garanti une ascension sociale. On pouvait commencer par un CAP dans une entreprise et finir ingénieur. Donc, clairement, il y a eu une mobilité interne très, très forte. Le CAP était très sélectif. Donc, si vous voulez, quand on dit très sélectif, ça veut dire il était très convoité aussi, à la fois par les milieux professionnels que par l'institution. Et il faut savoir, pour information, que à la différence des élèves qu'on dit aujourd'hui orientés par défaut vers la voie professionnelle, il fallait passer un examen d'entrée en CAP pour préparer un CAP jusqu'en 67. Donc en fait, il y avait une sorte, si vous voulez, de valeur qui était reconnue au diplôme dans une société, il faut bien le dire, où les diplômes étaient plus rares qu'aujourd'hui. Donc, en fait, il faut bien le mettre en perspective avec ce que les sociologues appellent l'inflation scolaire, qui a conduit aussi à cet accroissement des diplômes et aussi à l'affaiblissement de leur rendement, si on parle un peu d'un point de vue économique. Le deuxième point, c'est les professeurs. Et les professeurs de lycées professionnels, beaucoup d'entre eux se recrutaient jusqu'au milieu des années 80, se recrutaient parmi les anciens ouvriers techniciens. Donc en fait, ils étaient souvent armés d'une expérience professionnelle, et donc ils venaient après pour passer le concours pour être PLP. Alors il y avait des indications. On avait les professeurs d'enseignement pratique, les professeurs d'enseignement général. Enfin, il y avait un ensemble de corps professionnels, catégories professionnelles d'enseignants. Et pour eux, c'était une promotion, hein, devenir prof après avoir été technicien. Donc il y avait une sorte de culture qu'on pourrait appeler finalement voilà, une culture de métier, et que j'ai retrouvé un peu chez d'anciens. Alors, ils étaient minoritaires, hein, puisque mes enquêtes ont commencé à partir de la fin des années 80, de la fin des années 90, puisque j'avais soutenu une thèse en 2000, sur l'expérience des élèves plus particulièrement. Et à cette époque-là, j'avais rencontré des enseignants qui étaient issus du monde professionnel. Je pense par exemple dans l'industrie beaucoup, et qui avait aussi suivi une formation dans l'institution antérieure à l'INSPE, antérieure à l'ESPE, antérieure à l'UFM, qui étaient les écoles normales nationales d'apprentissage. Et quand vous mettez la main sur les ENA, la culture qu'ils avaient promue à l'époque, c'était une culture qui ne séparait pas l'éducation de la formation. En fait, ils avaient une culture très arrimée à l'éducation populaire, partir de l'expérience, pédagogie de projet, pédagogie par objectif. Ils étaient vraiment avant-gardistes. Et alors, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils étaient un petit peu nostalgiques vis-à-vis des ENA, parce que j'ai écrit des choses là-dessus. Mais en fait, c'est parce qu'il y avait une culture qui était presque en fait l'équivalent des écoles normales pour former les instituteurs, mais avec une approche de la pédagogie qui se voulait effectivement se poser comme une approche progressiste. Donc d'ailleurs, quand il m'en parlait, on voyait bien qu'il y a une sorte d'attachement à cette culture par rapport à la formation. Et en fait, ce qu'il faut simplement retenir, c'est que quand je parle de cette proximité culturelle, c'est le fait aussi que les enseignants de l'époque se recruter davantage milieu populaire. Et le changement que j'ai observé avec mes récentes recherches, c'est aussi l'évolution du profil des enseignants des lycées professionnels. Ils se recrutent moins parmi les enseignants, parmi les publics issus de milieux ouvriers et plus des classes moyennes. Donc, quand vous avez cette évolution, ça n'est pas sans effet sur la relation au public, hein. C'est pour ça que j'ai multiplié effectivement les portraits des enseignants qui sont parfois un peu surpris de la distance culturelle avec leurs élèves. Et ça aussi, c'est un élément qui est extrêmement important pour comprendre le sens et les configurations de la relation pédagogique. J'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, les centres de formation professionnelle sont devenus les centres d'apprentissage. Les CFP, c'était l'ancêtre des centres d'apprentissage qui deviennent les collèges d'enseignement technique, qui deviennent les lycées professionnels que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que cette spécificité sociologique crée une sorte de proximité avec leurs élèves. Et il faut quand même le dire, le modèle qui a prévalu jusqu'à la fin des années 70, le modèle pédagogique qui avait prévalu pour la formation des élèves et la formation donc des futurs ouvriers, c'était un modèle qui était progressiste au sens où il défendait en gros trois entrées qui étaient former l'individu, former l'homme, former le citoyen, former le travailleur. Hein. Donc il y avait cette culture qui n'était pas très hostile, contrairement à ce qu'on croit aujourd'hui. Elle n'était pas hostile aux entreprises. Hein. Parce que quand on entend aujourd'hui, alors c'est un point sur lequel j'avais aussi travaillé, quand on entend un discours très en disant les entreprises exploitent les élèves, et notamment vous entendez aujourd'hui sur l'apprentissage versus la formation scolaire. En fait, à l'époque, on avait déjà des enseignants qui formaient leurs élèves à devenir à la fois autonomes, un très bons ouvriers, en fait, même s'ils pouvaient être aussi, ils devaient aussi avoir une culture politique, au sens de former il faut pas former des gens dociles, mais il faut former d'abord l'ouvrier qui est capable de bien faire son travail et de respecter la hiérarchie en entreprise. Hein. Je vous invite simplement, si vous voulez en prendre toute la mesure, et vous en connaissez peut-être certains d'entre vous ont lu, à lire le livre de Claude Grignon, L'ordre des choses. Hein. L'ordre des choses, qui est paru en 72, est un modèle. On voit les enseignants très durs, parfois avec leurs élèves, pour dire, on t'apprend pour que tu sois autonome, fier de ton travail, même s'ils pouvaient être critiques vis-à-vis du capitalisme, l'exploitation, etc. Important quand même à dire par mettre en perspective. Alors là où les difficultés vont se poser, c'est effectivement ce que j'ai appelé cette progressive scolarisation de la voie professionnelle. En fait, le changement majeur qui va se produire, pourquoi il va y avoir un processus de dévalorisation et mise en tension de la place du lycée professionnel dans le système scolaire aujourd'hui, c'est effectivement ce que j'ai appelé cette scolarisation. Ça veut dire en gros, dès lors que la formation professionnelle des futurs ouvriers employés va devenir une affaire de l'éducation nationale, il va y avoir une dévalorisation parce que l'intégration de la voie professionnelle à la formation scolaire va conduire à des comparaisons avec la voie générale. Et donc, si je voulais utiliser une métaphore pour résumer, je dirais que jusqu'à la fin des années 80, on allait vers le lycée professionnel parce qu'on était fils ou fille d'ouvrier. Et désormais, après les années 80, on va vers le lycée professionnel parce qu'on est en échec au collège. Et donc, vous voyez, cette mutation, elle est importante parce que ça va modifier les représentations qu'on a sur le lycée professionnel. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui m'a amené à m'interroger, à conduire des premières recherches. Alors, vous disiez, j'étais conseiller d'orientation. C'est l'avantage quand vous êtes conseiller d'orientation aussi, par rapport à un chercheur qui va venir pour observer, ou l'avantage qu'on a quand on est enseignant à l'intérieur, c'est que vous pouvez faire des observations participantes. Vous êtes dans l'institution, vous assistez à des conseils de classe, et vous entendez des phrases du genre, cet élève-là, il est fâché avec l'école, il va vers la voie pro. Comme si la voie pro n'était pas l'école. Donc, vous voyez, il y a des éléments, ou alors un discours qui est très répandu encore aujourd'hui, il est fâché avec l'école, il faut qu'il aille apprendre un métier manuel. Hein. Comme si le manuel suffisait à lui-même pour être un levier de formation. Hein. Quand l'élève arrive au lycée, il découvre que en bac pro ou en CAP, il y a quand même de l'histoire, il y a des maths, il y a de l'anglais, il y a des sciences, etc. Il quand même il réussit quand même. Et Quand vous prenez la notion de scolarisation, je lui donne deux sens. C'est à la fois le sens au sens d'intégration de la formation professionnelle à l'éducation nationale. Et le deuxième sens, c'est le fait que les contenus de formation sont devenus plus scolaires. C'est ça le sens. Ils sont devenus plus scolaires parce que si vous comparez un CAP, le temps passé en atelier chez les élèves des années 70 en CAP, ils passaient jusqu'à 65% de leur temps par semaine était consacré à l'atelier. Aujourd'hui, ils sont à peine au tiers. Donc, scolarisation qui s'explique aussi par la place que prend aujourd'hui l'enseignement de la technologie dans les CAP et les bacs pro. Hein, vous savez, et vous l'avez vu en lycée, les élèves ont un enseignement de technologie. Quand vous faites la gestion, vous faites l'économie, c'est un enseignement qui est un enseignement dit professionnalisant. Mais c'est un enseignement aussi scolaire. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de la forme scolaire qui s'affirme, qui se confirme effectivement par rapport à cette scolarisation. Donc, pour résumer rapidement cette première partie, voilà, les évolutions d'enseignement professionnel procèdent donc des évolutions suivantes. Donc, effet de la tertiarisation des emplois, ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait que ce n'est pas très visible. C'est vrai que les emplois sont beaucoup moins visibles pour une partie des élèves. Ce sont aussi des emplois, comme vous le savez, qui ne préparent pas systématiquement à ce qu'on a pu connaître avant, à savoir des cultures professionnelles collectives. Hein, ça aussi, c'est un élément qu'il faut souligner. L'effet aussi de la mutation de la classe ouvrière, puisque traditionnellement, nos élèves étaient issus de beaucoup de milieux ouvriers. Avec les recompositions de la classe ouvrière, ils ne peuvent plus compter, en gros, pour aller vite, sur un milieu familial qui soit structurant, qui donne du sens aux études. Donc, vous avez par exemple, alors quelque chose qui peut surprendre, je me suis entretenu aussi avec beaucoup de parents, c'est des parents qui peuvent vous dire ce que leur enfant est en train de faire comme intitulé de formation, mais qui ne connaissent pas les contenus de formation. Donc, en fait, il y a une distance qui s'est installée aussi par cette invisibilité, par cette mutation de la classe ouvrière. Alors, il y a beaucoup de travaux, je n'en parle pas ici, mais il y a beaucoup de travaux, y compris des travaux britanniques ou anglais, qui avaient été menés aussi sur la classe ouvrière. On fait effectivement des parallèles, hein, par exemple, Paul Willis avec ses travaux sur la condition ouvrière, en disant que, effectivement, dès que les savoirs, il avait observé en Angleterre que les élèves de milieux populaires développaient aussi une culture de rejet de la culture générale, hein, en disant, voilà, tout ce qui est savoir général est très éloigné de mes attentes. Donc, et j'en dirai un mot sur l'enseignement général, parce que, bon, j'ai aussi des publics qui sont concernés. L'enseignement général, quand même, il y a un enjeu, mais vous voyez, ça entre en tension avec ces évolutions, notamment de la classe ouvrière, et voilà. Et troisième élément, c'est l'impact du chômage sur le rapport des élèves à la formation. Et je dois dire ici que j'ai eu les deux réactions contrastées. Soit des élèves disent finalement au chômage, mais du coup, je ne fais pas d'études, donc je ne vois pas à quoi ça sert. Soit à l'inverse, des mêmes élèves qui invoquent le même argument en disant, comme il y a du chômage, je vais poursuivre des études. Donc, il faut aussi analyser ces facteurs de façon un peu plus nuancée, mais simplement, on conclut à cette idée que l'élève, le lycée professionnel n'est plus l'école des ouvriers, puisque, comme je l'ai dit, il prépare à d'autres métiers qu'au métier d'ouvrier. Si vous voulez avoir aussi des éléments, on voit bien que la voie professionnelle n'accueille pas beaucoup d'élèves issus de milieux très favorisés. On trouve bien sûr des davantage, si vous voulez, une origine sociale plus populaire, hein, beaucoup d'enfants d'employés ou d'ouvriers. On retrouve aussi, là c'est un tableau que j'ai fait, n'est pas très actualisé, c'est 2020-2021, mais ce qu'il faut relever simplement, c'est que ces indications peuvent conduire à considérer que le lycée professionnel, c'est la voie de la reproduction sociale, mais ça ne nous dit rien sur la diversité des publics et ça ne nous renseigne pas sur la diversité de trajectoires. Hein. J'ai toujours tendance à dire, quand on appréhende le réel, il faut l'appréhender à la fois en termes de photographie, mais aussi en termes de film. Hein. Travailler aussi sur les parcours, et là, on a des choses beaucoup plus nuancées que cette image un peu fixe. Ces publics donc de lycées professionnels, rapidement quelques mots, je vous disais à l'instant, public plutôt issu du milieu modeste, ce qui interroge aussi sur les finalités de la voie professionnelle. qui interroge aussi sur l'ambition que nous avons ces publics. Et donc, je vais prendre un exemple pour illustrer un peu l'enjeu, puisque la question, c'est bien celle de la démocratisation scolaire. Si on compare, par exemple, le début des années 70, on avait une minorité des élèves qui obtenaient le CAP, des informations, et donc c'était très sélectif. Pour le coup, on pourrait dire il y a pas de démocratisation scolaire. Aujourd'hui, on peut constater qu'il y a une majorité des élèves, et il faut quand même le dire, réussissent son lycée professionnel parce qu'on travaille autrement. Et du coup, on peut avoir deux lectures de cette évolution. Si je constate que les jeunes générations aujourd'hui ont des diplômes plus élevés que leurs parents, je dois pouvoir dire qu'il y a une sorte de démocratisation au sens où on a ouvert le système, qui accueille plus d'élèves, qui qualifie davantage d'élèves que les anciennes générations, mais l'interprétation qu'on va en faire peut varier en fonction des sociologues. Il y a des sociologues qui disent finalement, le bac pro aujourd'hui vaut le CAP d'il y a 10 ans ou d'il y a 15 ans, donc du coup, on n'a pas vraiment modifié les choses, simplement, on a un peu ce que des sociologues appellent, par exemple, je pense à Kanko qui dit finalement, c'est une élimination différée. Bon, ça, c'est une lecture. Moi, ma lecture, elle est différente. C'est de dire, justement, l'élévation des niveaux de qualification répond aussi, même si ce n'est pas forcément l'enjeu systématique des politiques publiques, répond aussi à des enjeux d'émancipation sociale et pas seulement d'émancipation professionnelle. Je m'explique. Quand on interroge des élèves aujourd'hui, beaucoup aspirent à poursuivre des études, et pas forcément pour dire nous voulons occuper un poste ou un statut social plus reconnu, mais nous voulons vivre aussi notre expérience d'élève, voire d'étudiant, comme les autres étudiants. Et donc, ils ont le droit de se dire que la démocratisation, ça n'est pas seulement le fait d'élever les niveaux de qualification. Démocratisation, c'est aussi de créer les conditions pour que les élèves ne subissent pas leur scolarité. Et c'est très intéressant de le remarquer. Je n'ai pas vu vraiment d'élèves qui subissaient sa scolarité. Ou alors, quand il subit la scolarité, il n'est plus scolaire. Ou alors, il peut développer. Et même quand il développe des attitudes de rejet de l'institution, on ne peut pas dire qu'il soit totalement dominé. Donc, il faut qu'on analyse cette question-là à partir de ce que, non pas ce que l'institution fait aux individus seulement, mais ce que les individus font de l'institution. Et un exemple que je vais livrer, et puis après, je vais avancer, parce que ça me paraît important par rapport aux propos. Autant au départ, j'étais comme beaucoup de gens, comment c'est là, je me dis, mais comment font ces élèves qui arrivent avec parfois des difficultés scolaires telles en collège, comment ils font pour se motiver, quoi. Et du coup, comment font les profs pour se motiver? Et je me suis aperçu qu'en fait, la question était mal posée. Il fallait que je pose la question autrement. Comment les élèves, quand ils y sont, quelles sont les expériences qu'ils vivent qui créent justement une sorte de volonté de se dépasser? Et on voit qu'en fait, fondamentalement, ce qui contribue à donner à créer des projets chez les élèves, ce sont les apprentissages. Je ne me posais pas la question au départ, mais apprendre en mathématiques, apprendre l'histoire, réussir une activité en atelier, réussir des stages en entreprise, bon, les fameux PFMP, ça crée aussi chez les élèves, ça fait émerger d'abord un sentiment d'efficacité personnelle, si on prend cette expression, et ça crée aussi chez eux, ça donne lieu à l'émergence de nouveaux projets. Donc, vous voyez, ça veut dire que ce n'est pas seulement le projet initial qui conditionne la réussite, c'est aussi la confrontation à des activités qui n'est pas indépendante du travail mené par les enseignants. Hein. Et je vais y revenir, parce qu'il m'a paru extrêmement crucial ce rôle. D'ailleurs, beaucoup distinguent les profs qu'ils ont eus avec les profs de lycée, et beaucoup aussi, mais à condition aussi que les enseignants réalisent que l'accompagnement des élèves, c'est aussi l'exigence et bien sûr la bienveillance. Voilà, donc ça, ce sont les statistiques. Comme je disais tout à l'heure, vous avez quand même deux fois plus d'apprentis en CAP qu'en formation initiale. Le plus grand du contingent, ça reste les bacheliers professionnels. Alors, l'autre point, c'est bien sûr la question de l'orientation, qui est aussi un sujet à part entière. Et là aussi, sur le problème, comme vous le savez, c'est que nous avons une institution scolaire qui fonctionne d'abord comme une institution de gestion des flux. Je le rappelle toujours, l'éducation nationale, c'est quand même une grande maison, hein, comme vous le savez, presque 13 millions d'élèves. faut quand même répartir tous ces élèves dans des formations. Donc vous comprenez, dans l'absolu, un élève, dans l'absolu, il peut tout faire, mais dans le réel, il ne peut pas tout faire. Parce qu'évidemment, il y a des questions de niveau, mais il y a aussi des questions de classe. Et vous avez remarqué qu'il est, pour beaucoup d'élèves, beaucoup plus facile, plus aisé en tout cas, de passer en seconde générale et technologique que d'aller vers un lycée professionnel. Parce que le lycée professionnel, ce n'est pas seulement l'orientation, c'est aussi l'affectation dans des spécialités. Et la hiérarchie des spécialités conduit beaucoup d'élèves à être dans une logique de renoncement. Donc on n'est pas toujours dans une logique de projet. Ajoutez à cela le fait que l'institution demande à des élèves de 15 ans de savoir ce qu'ils veulent faire à 15 ans, c'est quand même très compliqué. Moi, j'ai des étudiants que j'ai eus, j'en ai encore, puisque là, c'est en master. Ils sont en master et ils savaient ce qu'ils voulaient faire en première année, et en master, ils ne savent plus. Bon, alors, ça interroge. En même temps, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est l'urgence. C'est que l'élève, on lui dit, bah, il faut que tu détermines. Faut que tu détermines par rapport à des formations. Alors, en plus, le problème, comme vous le savez, c'est que toutes les formations ne sont pas à proximité. Donc, beaucoup d'élèves choisissent des formations. Alors, j'ai un choix. Ils disent finalement, je choisis la formation qui est la plus proche de mon domicile. On est loin du projet. Donc, toutes ces considérations m'amènent à dire, au fond, que l'urgence du projet qui s'impose à des élèves de milieu modeste, dont beaucoup n'ont pas la possibilité de vivre des expériences avant de choisir, ben, on montre que la question de l'orientation est en soi un sujet. Mais contrairement à ce qu'une idée reçue, il n'y a pas toujours une relation mécanique entre choix, non-choix et réussite ou pas dans les études. C'est un point qui est important à souligner parce que dans l'opinion dominante, et puis on pourrait dire même le bon sens, tu n'as pas choisi, donc forcément tu es condamné à. Et en fait, on découvre aussi une multitude de situations, des configurations, comme le type d'établissement, comme la politique engagée par l'établissement pour accueillir les élèves et bien sûr les enseignants, qui sont aussi partie prenante de la réussite au-delà de la question du projet et donc ou de la question du choix. Donc un enseignement professionnel, je ne parle pas ici d'un autre enseignement qui à lui seul devrait prendre du temps, c'est l'enseignement agricole qui historiquement a été aussi très novateur, je n'ai pas le temps de développer, mais je vous invite, hein, si vous voulez aller plus loin, de voir un peu les travaux dans l'enseignement agricole, les recherches, et notamment la spécificité de l'enseignement agricole, qui a depuis longtemps une vraie culture de l'accueil, de l'accompagnement des élèves, une culture aussi du projet, une culture par la formation par l'expérience. L'enseignement agricole comporte évidemment deux volets, privé et public, plus d'élèves dans le privé que dans le public. Par exemple, les maisons familiales rurales sont privées, mais elles ont plutôt souvent une approche de type chantier-école, hein, quand on travaille avec les élèves en termes de formation, c'est très intéressant. Alors, ce qui m'amène à un deuxième point dans le point 4 concernant l'orientation et le parcours. Point fondamental, effectivement, c'est que le concept de rapport au savoir m'a permis de mieux appréhender l'expérience des élèves. Et la leçon de rapport au savoir, je vais en dire un mot, juste après avoir simplement rappelé le fait qu'il y a, filles, garçons, des rapports variés aux enseignants et savoirs. C'est vrai que on a quelques travaux sur le genre à l'école et quelques rares travaux sur le genre en lycée professionnel. Hein. Je pense par exemple à un livre qui a été une thèse qui a été soutenue par Séverine de Poilly qui a écrit un livre qui s'appelle Filles et garçons au lycée pro et qui montre effectivement que la question du genre, elle doit être aussi articulée à la question des classes sociales. Alors, c'est un peu ce qu'on appelle les recherches intersectionnalistes, dans lesquelles on fait intervenir à la fois le genre et l'origine sociale. Et ce qui est intéressant, moi je l'avais vu, c'est que les filles et garçons n'ont pas le même rapport aux enseignants, qui n'est pas une question de nature, c'est une question aussi de socialisation, hein, on est d'accord? C'est-à-dire que l'éducation fait que, bon, on a des rapports variés au savoir. Par exemple, les garçons ont plus une tendance à trouver le professeur sympa quand il parle aussi d'autre chose que de parler de l'école, alors que les filles trouvent plus le prof sympa, il peut être sympa, mais s'il n'enseigne pas bien, c'est pas vraiment top. Donc en fait, on trouve des choses très proches de ce que la littérature montre sur des publics un peu ailleurs, hein, pas seulement en lycée professionnel. Ce qui est aussi intéressant, c'est que, et on va passer un peu à la diapositive suivante, c'est cette notion de rapport au savoir. En fait, Les travaux sur le rapport au savoir, vous en connaissez sans doute. Moi, j'avais mobilisé les travaux de Bernard Charlot du rapport au savoir et éléments pour une théorie qui sont vraiment éclairants. Ils sont partis d'une recherche pionnière qui a été menée sur les banlieues dans le 93 et notamment dans l'éducation prioritaire. C'était École et savoir dans les banlieues et ailleurs dont vous avez peut-être entendu parler, et qui était une manière de poser le problème de la réussite scolaire à partir du rapport au savoir chez les élèves. C'est-à-dire, au lieu de dire les élèves réussissent ou échouent à l'école selon l'origine sociale, et l'hypothèse est de dire selon aussi le rapport au savoir. Et donc, c'était une manière d'abord de dire que le rapport au savoir n'est pas quelque chose qui est mécaniquement une sorte de calque sur l'origine sociale. On peut avoir des élèves issus de milieux ouvriers, vous le savez, qui sont en réussite scolaire, et heureusement. Donc, s'il y a des élèves de milieux ouvriers qui sont en réussite scolaire, on ne peut pas expliquer par l'origine sociale, par le capital culturel, par exemple, hein, pour Dieu, la réussite scolaire. Donc, il faut faire un autre postulat. Le postulat, c'est la question du rapport aux apprentissages, la question du rapport à l'école, la question du rapport des parents à l'école. Donc, en fait, il montre que la question du rapport au savoir, c'est fondamentalement la question du sens. Et c'est vrai que quand j'ai pris les élèves des entretiens, beaucoup vous disent à quoi ça sert, hein, quand vous dites la question, à quoi ça sert de faire de la littérature, de faire des maths, etc. La question de l'utilité. Et ce travail pionnier alors Charlot, Bottier et Rochex, hein, des 92, en fait, il montrait déjà à l'origine que les différences, les inégalités d'apprentissage sont des inégalités dans le rapport au savoir qui commencent dès l'école primaire. Hein. Quand un élève dit « je viens pour écouter le maître ou la maîtresse » et un autre dit « je viens pour écouter la leçon », ce n'est pas du tout le même rapport au savoir. Et donc cet exemple qu'il donne m'a amené à me dire « effectivement, il faut interroger les élèves sur le sens des études. » Donc j'avais fait un questionnaire, vous aurez quelques références biographiques à la fin, mais j'avais fait un questionnaire sur justement à des élèves de CAP et de Bac Pro, de me dire des questions pour rédiger ce qu'ils appellent des bilans de savoir, puis que je suis né, qu'est-ce que je pense avoir appris à l'école, quelles sont les matières où j'ai appris. Donc j'ai adapté par rapport au lycée professionnel. Et c'était intéressant parce que, par exemple, une chose qui m'a frappé, c'est la différence que les élèves font entre apprendre pour aujourd'hui et apprendre pour plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on apprend pour aujourd'hui? C'est le métier. Et tout ce qui est enseignement général, c'est plutôt pour plus tard, avoir le diplôme, savoir rédiger les lettres de motivation. Donc, en fait, il y a une perception, voyez, de la nature des savoirs et qui doit être aussi interrogée, qui rend compte de la diversité des élèves dans leur rapport à la formation. Et c'était intéressant parce que j'utilisais aussi ce questionnaire, j'utilisais aussi avec mes propres PLP stagiaires, puisque j'étais formateur et enseignant à l'UFM dans le temps, c'était aussi une manière de dire, voilà, on peut peut-être exploiter cette entrée-là pour mieux appréhender les malentendus et dire, voilà, hein, qu'en penses-tu apprendre? Qu'est-ce que c'est qu'apprendre pour toi? Enfin, ça donne des choses extrêmement intéressantes. Quand l'élève vous dit, ah ben, j'ai pas besoin d'apprendre, il suffit que je comprenne. Ce qui montre aussi le malentendu entre comprendre et apprendre, ou alors faire et apprendre, peuvent être confondus. Hein. Vous voyez, donc, tous ces éléments-là étaient intéressants, ce qui m'a amené à faire à dégager une typologie que je lis rapidement. C'est un peu ce que j'ai appelé un rapport pratique au savoir. Ce sont des élèves qui sont plutôt intéressés par les savoirs dès lors qu'ils ont ils débouchent sur des usages. Hein. J'apprends parce que ça permet de l'aide de motivation tout à l'heure, mais bien sûr, quand on fait de la littérature ou quand on lit des textes, c'est pas que pour l'aide de motivation, mais ça veut dire un rapport un peu restrictif à la formation. Vous en avez d'autres qui sont dans ce que j'ai appelé un rapport réflexif, c'est-à-dire des élèves qui sont plutôt dans l'idée de on va apprendre pour mieux comprendre. Et donc, en fait, ce sont des élèves qui réinvestissent l'enseignement général. Et ça, on l'a oublié, il n'y a pas de travaux là-dessus. Ils nous disaient j'aime bien faire de la littérature, j'aime bien faire des maths, j'aime bien faire des arts. Pourquoi? Eh bien, en fait, parce que ça me permet d'abord de réussir, je suis en réussite, et ça me permet, ils ne le disent pas directement, mais ça me permet aussi de réussir là où j'ai échoué au collège. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la revanche et qui ouvre des horizons. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous avez. C'est toujours intéressant de voir un peu les parcours qui ne sont pas linéaires. Hein. Vous interrogez des gens qui ont connu des parcours très variés. Combien de fois des adultes m'ont dit, et c'est vrai, y compris dans des cours, des adultes de cours du soir, bien, effectivement, il y a des choses auxquelles je ne donnais absolument pas sens quand j'étais étudiant ou élève. Et là, comme j'ai déjà de l'expérience, je reviens en formation, tout d'un coup, ça prend du sens. Donc, C'est aussi la question des temporalités, hein, et c'est un vrai problème, et ça ne concerne pas que les élèves. Un rapport un peu des impliqués, ce sont les élèves qui n'entrent pas dans les apprentissages, souvent plutôt des élèves potentiellement dits décrocheurs, qui sont désimpliqués et en général plus dans des relations conflictuelles. Donc, quand même, une partie des élèves sont un peu dans cette posture, qui s'explique aussi par des trajectoires parfois un peu sinueuses, etc. Et puis, un rapport intégratif et évolutif au savoir, ce sont des élèves qui ne hiérarchisent pas entre les contenus, qui les mettent en dialogue. Et j'ai tendance à dire qu'en fait, ils n'ont pas attendu la co-intervention, ni le GLS, ni les PPCP au début des années 2000, pour être dans une posture de mettre en dialogue. Alors, en général, c'est dans certaines formations qui sont les plus professionnalisantes, type hôtellerie, restauration. Parce que là, en fait, je veux dire, ben, je suis capable de tenir une discussion avec un client tout en étant dans une relation de service, d'un savoir-faire. Hein. Donc, ça veut dire aussi qu'en fait, ce type 4 nous interroge aujourd'hui. Je crois qu'il y a un vrai sujet à l'heure, effectivement, débat sur l'avenir de la voie professionnelle. Il y a un vrai sujet, c'est la pédagogie de l'alternance, en fait. C'est qu'on voit bien que cette question de l'alternance entre différentes expériences, comment mettre en dialogue, ça ne va pas de soi, ça n'est pas toujours facile. Et donc, c'est intéressant à souligner. Alors, je vais avancer quand même pour dire simplement que quand on travaille sur le rapport au savoir, il y a effectivement, ne pas oublier qu'il y a trois dimensions. Donc, je voudrais dire un mot sur les profs. C'est évidemment le rapport au savoir qui tient à l'expérience familiale. Alors, par exemple, pour c'est vrai que j'ai fait un total, totalisé un petit peu, en fait, sur une quinzaine d'années, toute recherche confondue sur la voie professionnelle, j'ai dû faire 700 entretiens avec des élèves. Donc, ça vous donne un peu, si vous voulez, une idée du nombre, et puis plus de 200 ou plus de 250 avec les profs. C'est intéressant parce que ça permet aussi de mettre en perspective. Et en fait, la première chose que je dois dire, c'est que je n'ai jamais rencontré un élève qui m'ait dit: mes parents, pour eux, l'école, ce n'est pas important. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est-à-dire qu'on entend dans les salles de prof, y compris dans les entretiens avec des collègues, ouais, tu sais, les parents sont des missionnaires, etc. En fait, il y a de grands espoirs sur l'école. Et il y a une critique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de critique vis-à-vis de l'école, en fait. C'est ça qui est intéressant. Si vous voulez, je vais prendre un exemple très, très. Je vous donne un exemple que je trouve très intéressant. En tout cas, quand j'avais commencé comme conseiller d'orientation, je me souviens. Il y avait des parents qui étaient venus me voir en disant: je voudrais que mon fils aille dans tel lycée parce que et je voudrais qu'il choisisse l'option théâtre parce que vous comprenez, il va aller plus tard dans l'enseignement supérieur et je sais que le théâtre ça permet d'avoir une confiance en soi et donc voilà, les parents avaient avancé un argumentaire que l'institution scolaire entend très bien. Et qu'on dit voilà, il va faire des CPGE, alors des CPGE classe prépa, je pensais que c'était qu'un hippocampe, mais en fait, non, il va faire des CPGE scientifiques, mais je sais que pour prendre confiance en soi, c'est bien pour communiquer qu'il fasse du théâtre. Donc vous avez des parents, et donc ça c'est un type de parents, et vous avez d'autres parents qui viennent en faisant la même demande. Je lui dis, tiens, ce théâtre a eu du succès, tout d'un coup, je sais comment ça se fait. Et en fait, l'argument c'était, je voudrais que mon fils soit dans le meilleur lycée. Et donc, vous comprenez, si vous dites, si vous avancez cet argument, c'est un argument qui n'est pas, en tout cas officiellement, ce n'est pas un argument qui percute comme le premier. Ça veut dire qu'il y a des implicites. Et donc, imaginons des parents, la différence avec les parents de lycée professionnel, majoritairement ici modeste, de milieu modeste, en général, ils font un peu plus confiance dans l'école que les parents de milieu classe moyenne, classe favorisée. Donc, par conséquent, c'est juste pour vous dire, parce qu'évidemment, vous aurez, malheureusement, je dois le dire, il y aura quand même des moments où parfois, moi-même, je l'ai eu aussi, des malentendus et des tensions avec des parents, c'est que quand les parents font confiance, ils ont aussi plus de chances d'être déçus. C'est ça, la réalité. C'est-à-dire que si vous faites confiance, tout se passe bien, ça va. Mais quand ça ne se passe pas très bien, à ce moment-là, ils remettent en cause l'institution. Et je crois que c'est une des raisons qui explique les tensions, les désaccords, parfois, j'ai déjà vu hein, des parents assez violents, il faudra calmer le jeu, etc. Et d'autant plus que les sentiments d'injustice sont très forts au fur et à mesure que vous allez des milieux favorisés vers les milieux modestes. On peut le comprendre pour X raisons. Et donc, le sentiment d'injustice conduit aussi à cette dimension. Je voulais simplement faire cette parenthèse pour vous dire qu'en fait, les élèves construisent un rapport à la formation en fonction aussi de la qualité du rapport de l'école à la famille. Et la famille ici, elle est utilisée au sens large du terme. Ne pas oublier qu'il peut y avoir des désaccords entre père et mère sur la formation. Et j'ai eu des exemples, je ne vais pas les développer, d'élèves qui sont scolarisés dans des formations, qui vivent une sorte d'ambivalence entre un père qui trouve que c'est très bien de faire de l'électronique ou l'électrotechnique et une mère qui trouve que c'est pas bien parce qu'il aurait fallu faire les CPGE. Donc on a aussi cette, quand on parle de la famille, on a toujours l'impression que c'est quelque chose d'assez homogène, mais c'est un point important. Alors les interactions avec les camarades de LP et les copains de la vie, il y a peu d'élèves qui font des travaux scolaires à la maison. Ils oublient, tout se passe en lycée professionnel. Et d'ailleurs, les profs ont abandonné depuis longtemps, les professeurs, ils ont abandonné l'idée de faire des devoirs, ce qui pose quand même quelques problèmes. Par exemple, aujourd'hui, dans la transition vers le BTS, pour beaucoup de bacs professionnels, il y a un travail personnel à faire et donc il y a toute une culture à construire. Ceci pour dire que j'avais observé que les élèves apprenaient aussi avec les autres. Hein. Et donc, il y a quelque chose qui se joue dans la classe, qui explique aussi la mobilisation sur les savoirs. Et il n'y a aucune raison de considérer que le LP sort aussi est différent des autres contextes. Les interactions avec les pairs sont aussi produisent aussi soit un rapport favorable aux apprentissages, soit des logiques de retrait en fonction du climat de la classe. Donc, il faut aussi analyser ces effets. Et bien sûr, les copains de la vie sont les copains à l'extérieur qui jouent aussi un rôle mobilisateur ou parfois démobilisateur. Et bien sûr, et donc, le dernier point, ça va être aussi la suite, c'est les relations aux enseignants, qui sont évidemment des relations très spécifiques et très particulières. Alors, les pratiques pédagogiques en lycée professionnel, j'ai étudié ici socialisation, apprentissage et accompagnement pédagogique des élèves. Quand on se penche un peu sur les pratiques des PLP, alors j'avais fait une sociologie des professeurs de lycée professionnel. On a quand même pas mal de travaux sur la sociologie des enseignants de second degré, hein. Peu sur les enseignants de lycée professionnel. Ils sont moins importants en termes de nombre, mais quand même, c'est le corps professionnel le plus varié. C'est là où on a les statuts les plus variés, les plus. Alors, en fonction des disciplines, en fonction des spécialités, et c'est aussi le plus varié en termes de parcours. Tout à l'heure, je disais, beaucoup de PLP sont issus, étaient issus en tout cas des milieux professionnels. Ça reste le cas, mais c'est de moins en moins vrai. Hein. On a un peu plus. Voilà, il y a des secteurs où on a, par exemple, je prends des PLP dans l'hôtellerie-restauration, beaucoup ont été des restaurateurs où ils ont travaillé dans ce secteur. Hein. C'est moins le cas si vous prenez les PLP de l'enseignement général, hein, où là, on va retrouver plutôt des profils de parcours plutôt plus universitaires, plus de formation. Alors, là aussi, cette sociologie permet de dire finalement que les enseignants de lycée professionnel, je schématise, hein, parce qu'il y a aussi des postures très variables en fonction des enseignants, mais globalement, ils s'accordent à dire que les élèves sont attachants, mais aussi surprenants. Hein, quelque chose de l'ordre de. Ils sont un peu étonnants, ils posent parfois des questions un peu qui relèvent un peu. D'ailleurs, c'est cette catégorie qui revient de savoir-faire, savoir-être, enfin, il n'est pas toujours à la hauteur. Voilà, donc parfois un peu infantile, un peu comportement, difficulté à prendre distance. Mais en fait, la notion d'attachant, ça renvoie aussi à la vive conscience qu'ont les PLP d'enseigner à des élèves. Qui sont confrontés à différentes difficultés, difficultés familiales, difficultés sociales, difficultés scolaires. Et donc, ce terme d'attachant, il a quelque chose de l'ordre de ce que j'appellerais volontiers, une sorte de volonté de créer une proximité pédagogique avec les élèves qui vient comme le pendant des difficultés qu'ils rencontrent. Autre élément aussi, ce sont les activités technologiques professionnelles qui donnent lieu à des stratégies. Alors, c'est très intéressant parce que j'ai fait des observations en classe et en atelier, en pratique, et je me suis aperçu, ce que j'ai appelé d'ailleurs positivement le bricolage pédagogique, c'est l'invention de son travail au quotidien avec ce que j'ai appelé des ruses pédagogiques. Hein. Et comment transmettre des notions quand les référentiels, quand les contenus de formation deviennent scolaires et que le profil scolaire des élèves est un peu moins bon que les anciennes générations. La vraie prouesse des enseignants, c'est comment mettre en dialogue les exigences de formation et les profils d'élèves. Et comme en plus on a des difficultés en France, ça a été débattu récemment dans le cadre de la réforme, à personnaliser les parcours, Là, vraiment, cette question des ruses pédagogiques m'a paru intéressante. Alors, il y a des exemples que vous avez peut-être déjà lus sur comment on enseigne ce que c'est qu'une personnalité morale à des élèves en droit. C'est pas évident. Donc, on part un peu de leur expérience. Et comment on met en dialogue l'expérience des élèves, l'expérience sociale, avec la notion qu'on veut travailler. Il y a aussi des ruses autour de l'évaluation qui doit commencer par être indulgente avant de devenir un peu plus réelle. Et donc, tous ces éléments-là m'amènent à considérer aussi que ces évolutions, ces pratiques pédagogiques notamment, elles sont aussi liées à cette invention du travail au quotidien, la nature donc de la relation, le souci de l'ordre scolaire. C'est intéressant parce qu'un de mes auteurs, les auteurs dont j'apprécie les écrits, qui est un ami par ailleurs et qui est historien, Vincent Troget, disait aussi, il était PLP de lettres histoire. Et quand il est devenu maître de conférence, il m'expliquait un jour, tu sais, quand j'étais PLP de lettres histoire, 1 heure de cours avec des élèves de bac pro équivaut en termes de fatigue à 12 heures de cours en amphi. Alors, évidemment, il exagérait un peu, mais quand même, ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'attention permanente. Et c'est vrai que c'est un métier exigeant. Ça veut dire, je résume un peu ce qu'elle m'avait dit une professeure de biotechnologie, tu sais, quand on n'enseigne pas simplement ce qu'on est. Le savoir, on enseigne aussi ce qu'on est, c'est la qualité de la relation, la qualité, si vous voulez, de l'attention portée aux élèves. Alors, ce que parfois les PLP interprètent comme étant une dimension affective, en réalité, c'est beaucoup plus la question de la reconnaissance qu'on manifeste aux élèves. Et c'est un enjeu majeur pour comprendre effectivement ces interactions. Donc, je termine, on va passer peut-être même à la suivante. Là, ce sont des exemples, oui, encore, la ruse pédagogique déjà, voilà, celle-ci. Voilà, pour qu'on puisse avoir un petit peu le temps. Donc, voilà, c'est les dimensions que je pour résumer un peu sur le travail des PLP. Ce que j'ai appelé finalement une absence d'attente d'un élève idéal. Hein, les PLP ne sont pas en attente d'un élève idéal. Ça peut surprendre, mais en fait, ce qui m'avait un peu, ce qui avait émergé lors des premiers entretiens observations, c'est que beaucoup d'enseignants disaient, tiens, on a quand même beaucoup d'élèves en difficulté, mais bah, on a des élèves qui sont tellement bons qu'on se demande ce qu'ils font ici. Donc quelque chose de l'ordre de, si vous voulez, de la surprise. Donc ils ont intériorisé l'idée qu'ils ne peuvent travailler en gros qu'avec des élèves en difficulté, ce qui quand même dit quelque chose sur l'organisation de l'institution scolaire. Hein. En gros, il aurait plus de chances s'il était en lycée. Et là, au lycée général et technologique, on est l'inverse. Hein. Je demande ce qu'ils font ici. Ça serait bien quand même qu'ils aillent dans la voie professionnelle. Et donc, ce terme de client idéal a été proposé par un sociologue américain, Howard Becker, qui est un sociologue interactionniste, et qui avait travaillé notamment sur les institutrices de la banlieue de Chicago en 52, avec un texte qui est de référence, dans lequel il disait finalement, elles avaient construit l'image du client idéal. C'est-à-dire, elle s'attendait à avoir des élèves qui leur ressemblent, très intéressés, très, très motivés, et elle découvre une distance culturelle. Et donc, il y a une sorte de choc qui s'installe parce qu'elles avaient intériorisé ce modèle. Comme en plus, elles avaient fait un parcours scolaire réussi et elles sont issues de milieux favorisés, ça conduisait à ces éléments. Donc, c'est quand même une spécificité qu'il faut souligner. Une origine sociale plus favorisée que leur public qui modélise quand même la qualité de la relation. J'ai eu aussi, je dois le dire, quelques PLP. Qui mettent une distance avec leurs élèves. C'est professionnellement problématique. Parce que si vous mettez une grande distance avec les élèves vous le rendent. Hein, ils comprennent bien, voilà, c'est une forme de mépris, etc. Donc ça veut dire que voilà, le métier devient un peu compliqué. Et donc c'est intéressant de relever un peu de ces dimensions. Autre élément aussi, rapidement, c'est le rapport spécifique au milieu professionnel. Que les professeurs de lycée professeurs ont un rapport très parfois ambivalent vis-à-vis des entreprises. Elles sont là pour former nos élèves, mais en même temps, il faut s'en méfier. Donc, ça conduit aussi parfois à une rhétorique critique vis-à-vis de l'entreprise et aussi une rhétorique critique vis-à-vis des familles. C'est ce que j'ai appelé la clôture symbolique, enfermant nos élèves en lycée professionnel pour mieux les sauver d'une certaine manière, ce qui quand même pose un certain nombre de questions, un certain nombre d'interrogations. Alors, bien sûr, on peut comprendre, c'est simplement pour dire que le travail des professeurs de lycée professionnel, j'ai utilisé cette expression, il se situe aux confins du travail social et du travail éducatif. C'est-à-dire qu'ils surinvestissent la qualité aussi de la relation pour transmettre des savoirs avec les ruses que j'ai évoquées tout à l'heure, et c'est intéressant pour avancer. Donc, je vais faire simplement, on va passer un peu, puisqu'on arrive à la fin, peut-être pour
Oui,
avoir des
on arrive à la
questions.
fin là.
Ouais, je propose qu'on passe à la conclusion. Voilà, parce qu'il y a plusieurs choses sur, voilà, je vais dire un mot ici, sur les enjeux, et puis après, je ferai une conclusion, rapide. Alors, j'ai circonscrit ici un certain nombre d'éléments sur, par rapport au titre, hein, sur les enjeux pour la démocratisation et l'émancipation. D'abord, je reviens un peu sur la notion de démocratisation. Comme je disais tout à l'heure, si on prend un livre qui a fait beaucoup de bruit en 89 ou 92, c'était Nivomante de Baudelot et Stablé. Ils avaient écrit un livre qui s'appelle Nivomante et dans lequel il réfutait une idée reçue. L'idée reçue, c'est niveau bas, si vous voulez. Et donc, contre cette idée, ils arrivent. Et ils prennent un exemple que je trouve très intéressant. Ils disent, effectivement, les élèves aujourd'hui savent moins bien écrire. Elles font plus de fautes d'orthographe qu'avant. Bon, ils ne connaissent pas les départements comme avant. Mais par contre, ils ont des notions que les anciennes générations n'avaient pas. Et il vaut mieux, ils prennent un exemple en disant, il vaut mieux quand un élève fait un bac, passe l'épreuve de philo, alors que s'il est 10 ans avant, il n'aurait pas passé. Il vaut mieux qu'il ait 5 en philo que ne pas avoir fait du philo du tout. C'est une manière de dire que quand on appréhende la réussite scolaire, quand on appréhende la démocratisation, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de la démocratisation uniquement en termes de tout le monde fait un bac, ça n'existe plus aujourd'hui, tout le monde fait un bac scientifique, ou est-ce qu'on considère qu'il faut comparer avec les anciennes générations pour dire les nouvelles générations ont accès à un savoir, certes, il n'est pas un savoir académique, mais c'est quand même quelque chose qui est, entre guillemets, mieux que rien. Et vous voyez, rien que de poser les questions de cette manière, ça revient à réinterroger la notion de démocratisation qui renvoie en réalité à trois grandes dimensions que je résume. La démocratisation scolaire en France, ça peut s'interpréter en termes d'élargissement du vivier de recrutement des élites. Ça, c'est une définition. Quand on recrute des élites dans des formations, dans des rôles, dans des fonctions, on va dire, socialement, de prise de décision, avoir des enfants de milieu ouvrier employés, c'est une forme de démocratisation. On peut aussi avoir une deuxième lecture, c'est la réduction des inégalités en fonction de l'origine sociale pour accéder à des formations. Hein, donc ça, c'est important de dire, est-ce qu'on a plus d'enfants d'ouvriers qui sont scolarisés dans des formations dites sélectives? Je prends l'exemple du BTS, il y avait peu d'enfants de bacheliers professionnels en BTS avant. Le fait d'avoir créé le bac pro a eu des effets sur la poursuite d'études. On a aujourd'hui des élèves qui font un BTS, qui font une licence professionnelle, qui font un master après. Qu'est-ce que nous faisons de ces évolutions? On ne peut pas tout le temps dire, c'est la reproduction, c'est les inégalités, etc. Donc, la troisième définition de la démocratisation, c'est aussi le fait d'élever les niveaux de qualification. Et c'est un enjeu majeur, parce que quand vous prenez l'élève, il vaut mieux sortir avec un bac pro validé que sans, avec un CAP validé que sans. Parce que ça a des effets aussi sur le parcours des élèves. Et il faut qu'on ait un peu voilà, qu'on analyse autrement que cette notion de démocratisation, et pas seulement par rapport à des modèles dominants, faire les grandes écoles, par exemple. Il y a des éléments, voilà. Donc ça, c'était la remarque que je voulais faire, et donc on va avancer. Voilà, je voulais dire un mot sur l'enseignement général que j'avais évoqué tout à l'heure, et après, je fais une conclusion. Alors, l'enseignement général, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet qui est très ancien. Donc, vous avez vu, l'école ne peut pas exister sans aussi avoir des finalités de culture, hein, culturelle. Et je crois que on manquerait justement les missions du lycée professionnel si on ne confortait pas la place de l'enseignement général. Alors, je sais que ça fait un débat. Je sais que depuis, effectivement, qu'il y a eu les réformes, on a réduit les heures, il y a eu effectivement de vraies interrogations. Ce qui apparaît, évidemment, je suis pas dans le, dans le, c'est pas moi qui décide. Nous, on est là quand on est dans l'inspection, à l'inspection générale, c'est surtout de faire des propositions et des décisions. Et la ligne qui me semble évidemment, comme on dirait, la ligne rouge, c'est la place d'enseignement général, parce que c'est fondamental. Ne serait-ce qu'y compris pour des finalités économiques. C'est-à-dire, si je poursuis des études, si je n'ai pas des acquis d'enseignement général, c'est assez compliqué. S'adapter aux nouveautés. Au changement, c'est l'enseignement général. Et donc, j'ai mis ici trois éléments que vous retrouverez sur la culture générale qui est importante, et sur la formation à raisonnement intellectuel. Et je pense que c'est d'autant plus important que c'est aussi un enjeu de démocratie. C'est-à-dire, le savoir, c'est aussi, on a quand même héritier des Lumières, c'est aussi de l'éveil de l'esprit critique et l'esprit éclairé avec la construction aussi de compétences génériques. pour l'adaptation aux situations professionnelles. Donc, je propose de dire peut-être simplement sur la fin, la conclusion. On va passer à la conclusion. Voilà. Et donc, je termine là-dessus simplement pour dire. Bah, d'ailleurs, c'était la conclusion, en fait, sur le point précédent. Donc, la question de la place d'enseignement général est un vrai sujet. Et c'est apparu, d'ailleurs, lors des discussions récentes au ministère sur la réforme de l'enseignement professionnel. Voilà. Donc, j'étais un peu vite, mais. Vous
Merci
laissez un petit peu
beaucoup.
le temps des questions.
Avec juste 5 minutes.
Juste 5 minutes, ça va.
Ouais, ça va, ça va. Est-ce qu'il y a des questions dans l'auditoire? Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Nous avons des questions prêtes, hein. Je peux le révéler.
Ah ben allons-y alors. Alors, c'est bien.
Laura, Fanny, Sarah.
Allez, c'est vrai.
Moi, j'ai été confrontée à ça, des élèves qui estiment qu'ils sont là parce que l'école est obligatoire, jusqu'à là, ils ne sont plus là, ils ne sont pas assez cours, donc ça a été de justifier l'enseignement en général de pas de l'école, puis ensuite de professionnaliser.
Oui. En fait, il y a plusieurs leviers. Quand on veut travailler avec les élèves sur le sens du savoir, la culture, le premier levier qui m'a paru vraiment important, c'est de faire des liens avec d'anciens élèves. C'est-à-dire quand vous faites venir d'anciens élèves qui sont passés par beaucoup d'entre eux, d'ailleurs ils étaient un peu réfractaires, ils ont suivi des formations, c'est quand vous les faites venir et parler un peu de leur quotidien, de leur expérience. D'abord, ça parle plus aux élèves qu'un discours institutionnel du professeur. Ça, c'est un levier. On essaie de le faire parce que ça permet d'ouvrir aussi le lycée sur l'environnement. Le deuxième levier, c'est que je pense que tant que l'élève n'a pas vécu une expérience, il n'en voit pas toujours l'intérêt. Et je vais vous donner un exemple, puisque vous êtes aussi dans le champ des langues. Dans les langues, quand on fait des séjours type Erasmus pour des élèves de la voie professionnelle. On commence à le développer, ce n'est pas encore très développé, mais quand même. Ils en viennent tout changer. Et qu'est-ce qui les modifie? Parce qu'ils découvrent d'autres façons de faire. Ils découvrent d'abord ben, la langue, c'est important, parce qu'au fond, ne serait-ce que pour communiquer, pour se faire comprendre. Et le fait de vivre des expériences leur permet aussi de renforcer un peu leur pouvoir d'agir. Et une partie des élèves qui sont en rejet de l'école sont des élèves qui vivent leur rapport à l'école sur le mode d'une expérience que l'on subit. Et ce qui, il y a par exemple un mot que je n'ai pas utilisé, mais qui est apparu beaucoup dans les recherches, c'est ce qu'ils appellent le déclic. Ils disent, on a eu le déclic à un moment donné. Et en fait, quand vous creusez le déclic, c'est le moment où ils passent du registre passif vers l'emprise qu'ils ont sur leur quotidien. C'est vraiment les leviers qu'on peut faire, qu'on peut agir, mobiliser avec les élèves et ça peut donner effectivement des choses intéressantes. Après, ça n'est pas toujours dans l'immédiat, c'est-à-dire que ça demande aussi du temps. Il y a parfois, on le voit par exemple pour les personnes qui travaillent dans la MLDS, tout ce qui est mission de lutte contre le décrochage, on a des élèves qui ont eu à un moment, ils étaient en difficulté, donc il a fallu avoir une sorte de parenthèse avant de revenir. Et rien ne vaut, je pense, rien ne vaut le fait de faire des expériences aux élèves.
Oui.
Est-ce que tu pensais qu'il y aura un rapport de force dans l'éducation? Enseignement, oui, c'est ce qu'on a fait en anglais. C'est ce qu'on a vu lors de recherche en master 1.
Oui.
Est-ce que vous êtes d'accord avec cette notion de.
Rapport de force. Alors, dans la littérature, on est moins sur le rapport de force que sur la question, le rapport à l'autorité. Je pense que c'est plutôt l'entrée qui me paraît intéressante, parce que, même Philippe Mérieux utilise cette notion de rapport asymétrique, hein, dans la relation. Il y a quand même, on va me souligner, l'enseignant, c'est celui qui sait. C'est un sachant. Bien sûr, les élèves savent aussi. Ils savent autre chose, mais l'enseignant, il a la maîtrise effectivement disciplinaire. Et le problème qui se pose, c'est comment faire en sorte que le savoir de l'enseignant fasse autorité. Et non pas que l'enseignant exerce une autorité. Bien sûr, il exerce une autorité institutionnelle, mais la légitimité, elle passe par par le savoir qu'il enseigne et la capacité à ce que l'enseignant donne du sens à ce savoir. Et vous voyez, par exemple, nos questionnements par rapport à la question initiale sur des élèves qui se désintéressent, etc. Il y a la question du sens, il y a la question aussi de. Je pense qu'aujourd'hui et à l'avenir, c'est pour ça que j'avais écrit dans un texte l'année dernière, ce qui va être vraiment un enjeu majeur, c'est comment on forme nos élèves à l'esprit éclairé et critique, parce que nos élèves, ils ont affaire à d'autres cultures, à d'autres modèles. Quand l'élève disait avant, alors que j'avais commencé, Bernard Charlot avant, en même temps avec qui j'avais fait ma thèse, il m'avait dit, c'est vrai, je me souviens, il me dit, encore, quand on interroge les élèves, où est-ce qu'ils apprennent? Beaucoup me disent, on apprend en regardant la télévision. Aujourd'hui, ils vont me dire, c'est Internet, on n'est plus à la télévision, c'est
YouTube.
les réseaux YouTube, les influenceurs, etc. Autrement dit, la tâche est immense pour les profs aujourd'hui, qui est non pas de dire on va concurrencer d'autres sources d'accès à la connaissance, mais on va davantage éclairer les élèves sur qu'est-ce que c'est qu'un savoir, qu'est-ce que c'est une démonstration, qu'est-ce que c'est une culture. Il y a un sondage récent qui montrait qu'on a de plus en plus d'élèves qui sont sceptiques vis-à-vis des enseignements scientifiques. Ah, c'est un vrai enjeu, hein. Là, je me dis, le défi ne va pas être mince. Et donc, la différence entre autorité et autoritarisme, évidemment, c'est que l'autoritarisme, c'est plutôt une forme de rapport de force au sens de je suis le maître, tu es l'élève, tu te tais, tu écoutes ce que j'ai à te dire. Là, évidemment, ce n'est pas possible. Ce n'est pas le modèle. Mais en même temps, on a à déconstruire avec les élèves un certain nombre d'a priori pour mieux les amener à construire des savoirs. Donc, bien sûr, je sais pas, c'est la notion de rapport de force. Ça veut dire une sorte de lutte, une sorte on est un peu dans le conflit qui peut être négatif. C'est plutôt comment on agit pour amener les élèves à travailler autrement, s'investir autrement. Et donc, vous voyez, ça pose quand même des questions, par exemple, sur le collectif professionnel. Ne pas travailler tout seul, faut travailler aussi collectivement. Et ça pose aussi la question, par exemple, des pédagogies coopératives pour amener les élèves aussi à se construire dans cette relation-là. Mais ce n'est pas une question secondaire.
Non?
Allez-y.
Non, non.
Allez-y.
Selon vous, pourquoi il n'y a pas plus d'écrits sur le lycée professionnel?
Ah. Bah grâce aux vôtres, de toute façon, il y a quand même des gens qui travaillent sur la voie professionnelle. Alors, pourquoi il n'y a pas d'écrits? En fait, et là, je vais faire la critique aussi des sociologues. On a beaucoup de travaux de sociologie de l'éducation sur, vous l'avez vu, hein, l'école primaire, beaucoup sur collège, lycée, hein, beaucoup sur l'enseignement supérieur. Et en fait, on a un peu on s'est peu intéressé au lycée professionnel parce qu'il y a un a priori chez les sociologues qui est de dire les vrais enjeux de la démocratisation se jouent ailleurs. Et donc, on a plutôt investi les formations générales parce que le modèle qui a prévalu dans la sociologie, en fait, la sociologie de l'éducation en France, elle est très cumulative. Elle a commencé vraiment par être une sociologie d'éducation avec les travaux de Pierre Bourdieu et Passeron. Hein, c'est les héritiers de 1964 qui a ouvert la voie à la sociologie de l'éducation. Et en fait, les héritiers, c'est ça. ça a eu un effet aussi sur les travaux ultérieurs qui ont surtout surinvesti la question des formations générales, parce que les formations générales sont celles qui débouchent en France sur les formations élitistes, et on a un peu le travers de penser que la réussite ne peut être que dans cet ordre-là, et donc on a désinvesti l'enseignement professionnel. De sorte qu'en fait, quand je vois les gens qui ont travaillé sur la VOPRU, ceux en tout cas auxquels je me réfère, en général, cette minorité, ils ont eu une expérience dans l'enseignement professionnel. Fabienne Maillard c'est une des références. Fabienne Maillard a beaucoup travaillé sur la construction des diplômes. Elle travaillait au ministère sur justement la certification, notamment les diplômes. Elle a beaucoup travaillé sur le CAP. Donc voilà. Gilles Moreau, qui a travaillé sur l'apprentissage ancien PLP Lettres Histoire. Vincent Troget, ancien PLP Lettres Histoire. Moi, conseiller d'orientation dans plusieurs lycées professionnels. Séverine de Poilly, dont j'ai parlé tout à l'heure, sur filles garçons lycée pro, ancienne PLP d'économie gestion. Donc en fait, ça reste une minorité. Et en même temps, ce qu'on peut dire, c'est que comme aujourd'hui, ce qui d'ailleurs m'amène à dire qu'on n'a pas pris toute la mesure de ce que la voie professionnelle est en train de modifier dans l'institution de formation. Si vous avez 3 bacheliers sur 10 qui sortent du lycée professionnel, c'est quand même pas rien. Ça a aussi des effets sur la visibilité par la suite. Et il est temps de travailler sur justement les effets de la massification, les effets de l'évolution des formations professionnelles au lycée professionnel. Et il y a quelques sociologues récents qui commencent à s'y pencher, par exemple Sophie Orange. Sophie Orange travaille beaucoup, si ça vous intéresse, sur les BTS. Et c'est une sociologue de l'Université de Nantes. Elle travaille aussi sur justement les publics des BTS, notamment composés de beaucoup de bacheliers professionnels. Vous avez des BTS qui recrutent jusqu'à 60% de bac pro. Donc voilà, c'est une des raisons qui fait que je pense que les vrais enjeux sont ailleurs, et alors que le lycée professionnel connaît quand même des évolutions.
D'autres questions?
On passe aux présentations.
Passe aux présentations.